Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le débrief de la quatrième manche de la saison, le Grand Prix de Bahreïn qui s'est terminé avec une nouvelle victoire de McLaren. Ça, j'ai envie de dire que c'est pas une surprise. Mais la deuxième victoire cette saison pour Oscar Piastri, qui est en train de s'affirmer vraiment comme une graine de champion. Est-ce que c'est pas lui finalement le candidat le plus plausible au titre de champion du monde? On va revenir sur cette victoire de Piastri devant Russell et devant son coéquipier Lando Norris. Il s'est passé pas mal de choses à Bahreïn. C'était peut-être pas non plus le Grand Prix de l'année, mais on a vu des Red Bull vraiment en galère avec un Max Verstappen qui n'a pas pu faire mieux que 6ème. On a des Français dans les points, on a une écurie de la Scuderia Ferrari qui peine à trouver de la performance. Bref, il s'est passé plein de choses et on va en parler tout au long de ce podcast avec une dream team de rêve, comme on dit dans le paddock. Jean-Luc Roy est en studio à Paris, from Miami. Salut Jean-Luc.
Salut mon Nico, salut à tous.
Ça fait bizarre de se remettre à l'heure française, hein, la météo et tout ça, Jean-Luc. Hein.
Bah oui, mais écoute, de temps en temps, ça fait du
bien. On s'y fait.
C'est une petite immersion, voilà, comme on dit. Et puis je retrouve mes joyeux camarades que tu vas introduire, si je peux me permettre l'expression. Il faut faire attention.
Oui, bien évidemment.
Que tu vas présenter. Allez, c'est mieux.
Aileron avant et aileron arrière, voilà, ces deux camarades.
Les ingénieurs du paddock du jour, Louis Gerbier et Arnaud Valadon. Salut les gars.
Salut Nico, salut tout le monde.
Salut Nico, salut à tous.
Salut les gars.
Bon, comme tous les débriefs de Grand Prix, je vous rappelle que vous pouvez nous noter sur les plateformes de téléchargement avec les 5 petites étoiles. Donc je vais vous demander, les gars, vos notes pour ce Grand Prix de Bahreïn sur 5.
Jean-Luc. Ah, ça y est, ça recommence.
Bah oui, ça va recommencer.
Oh là 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 là. Écoute, je vais être fidèle à ma... Bon, je mets 3 quand même, je mets 3. Je mets plus que
3.
La moyenne. Ouais.
Les gars,
Bah, soit je mets comme la semaine dernière 2,5,
ouais, ils sont
allez,
durs.
Pourquoi pas 3.
Ouais. Ouais,
bah, c'était pas fou, mais c'était pas inintéressant.
Je suis dans les mêmes eaux, 2,5, 3.
Ouais, je mets 3 moi aussi. J'avais mis 2,5 la semaine dernière.
On met 3 pour les Français, si on est content.
Ah bah voilà. Voilà.
Bah moi c'est l'inverse, j'aurais mis 3 jusqu'au dernier tour.
Ah oui, il s'est passé plein de choses, le dépassement de Verstappen sur Gasly, il y a une safety car aussi qui a été sortie, bref, on va en parler, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix de Bahreïn, quatrième manche de la saison. Le classement de la course, les gars, on le disait, quatrième victoire en Formule 1 d'Oscar Piastri, la deuxième cette saison qui s'impose avec plus de 15 secondes d'avance sur la Mercedes de George Russell. Lando Norris a vécu un week-end très compliqué. Hein. On va en reparler. Troisième, il complète le podium. Charles Leclerc qui ne peut visiblement pas faire mieux que quatrième avec sa Ferrari. Lewis Hamilton, cinquième, donc tir groupé des Ferrari qui prennent au moins des points, 22 points au classement des constructeurs. Sixième, Max Verstappen. Alors lui, ça a été vraiment très compliqué par rapport à la semaine dernière à Suzuka au Japon où il s'était imposé. Et c'est inquiétant pour Red Bull. On va débriefer ça. Pierre Gasly, les premiers points d'Alpine. Cocorico, 7e. Pierre Gasly qui sort Alpine de la dernière place. Ça va faire un bien fou à l'écurie et à Gasly. Esteban Ocon, très belle course, 8e. Yuki Tsunoda qui marque ses premiers points avec Red Bull, 9e. Et Oli Berman, la deuxième as, qui complète le top 10. Kimi Antonelli a fait une belle course, mais on va en reparler. Il s'est fait un peu piéger par les conditions. Il termine seulement 11e. Isaac Hadjar a franchi la ligne en 14e position. Il se classe 13e puisqu'il a bénéficié de la disqualification d'Hülkenberg. Et voilà pour les gros enseignements. Sinon, Carlos Sainz, qui était pas mal, notamment samedi en qualif, n'a pas terminé la course. Au classement des pilote. Oh, pardon, un petit chat dans la gorge, j'arrive. Lando Norris.
Box.
Un gremlin.
Ah, bah oui, vraiment. Alors, moi, je vais te donner le classement.
Comme dans la Mercedes.
Jean-Luc, je te laisse, c'est toi qui préside, vas-y.
Oh là là, allez, sortie de piste côté Paul Orsi, je suis désolé, ça y est, on reprend. Lando Norris à 3 points d'avance, 77 points, 3 points d'avance sur son coéquipier Oscar Piastri qui revient très fort. Verstappen est 3ème. 69 points pour Verstappen, hein, à 8 points de Norris. Il perd du terrain. George Russell, ultra régulier depuis le début de saison, 4ème. Et derrière, Charles Leclerc est assez loin, hein, de la tête avec 30. 32 points. Il est à 45 points de Lando Norris. Pierre Gasly, du coup, hein, avec ses 6 points, remonte à la 11e place. Classement des constructeurs, McLaren est largement devant, quasiment 60 points d'avance sur Mercedes. Red Bull 3e, mais Ferrari recolle. Hein, 14 points d'écart désormais entre la Scuderia et Red Bull. Et puis en fin de peloton, je vous le disais, Alpine et Sauber qui ont désormais le même nombre de points, 6e. Alpine a pris la 9e place et se rapproche de Racing Bulls ou encore de Aston Martin. Voilà pour les principaux enseignements, en tout cas les chiffres après ce Grand Prix de Bahreïn. Jean-Luc, il faut qu'on parle de cette victoire d'Oscar Piastri, on le disait, la 4e en carrière, parce que ben, il s'affirme vraiment comme le candidat pour le titre. En tout cas, dans la dynamique, on a l'impression qu'il est en train d'éclipser Norris et que le statut de leader de Lando Norris n'a jamais été aussi friable.
Eh bien, écoute, j'adhère totalement. Tu sais, si on se reporte à nos déclarations, les uns et les autres, déjà depuis le début de la saison, mais également en fin de saison dernière, moi, je pense que c'est lui qui a le plus faim. Déjà, c'est une évidence, parce que je pense que c'est un teigneux. C'est un type extraordinairement déterminé. Une nouvelle fois, la seule chose que personnellement je pourrais lui reprocher, c'est de ne pas exploser un peu plus lorsqu'il réalise une pole magnifique ou une victoire comme celle-là, parce qu'on ne peut pas être blasé quand c'est si tôt comme ça dans sa carrière. Hein. Mais je ne pense pas qu'il soit blasé, c'est quelqu'un qui est très réservé, mais je pense qu'il est déterminé. Et là, oui, je pense que, pour reprendre ce que tu disais, eh bien, Lando Norris a montré ses failles, il a avoué ses faiblesses, il a dit qu'il ne comprenait pas la voiture, qu'il n'arrivait pas à l'exploiter. En course, bon, il est quand même remonté, mais encore une fois, lui, il veut pas qu'on dise qu'il a la meilleure voiture du plateau. Piastri, il veut bien. Lui, il dit, mais bien sûr qu'on a la meilleure. Zach Brown dit pareil. Enfin, je crois qu'il y a tout le paddock dit que c'est la meilleure voiture du plateau, à part Lando Norris. Donc, c'est déjà un aveu de faiblesse. Et oui, moi, je fais de Piastri mon favori pour le championnat. Voilà.
C'est son premier hat-trick, hein, premier week-end parfait avec pole position, victoire et meilleur tour en course. Arnaud, et puis en plus, voilà, encore une fois, Jean-Luc disait, ouais, il a ce côté où il est très froid, il ne s'emballe pas pour les victoires. Tu as l'impression que gagner un Grand Prix de Formule 1, en fait, ce n'est pas une finalité pour Oscar Piastri. Il est programmé pour autre chose, en fait.
Et il est programmé pour en gagner plein d'autres. Donc, il se dit, bon, c'est qu'un Grand Prix, voilà, ça c'est fait. Et c'est vrai qu'on assiste vraiment à la bascule de Norris numéro 2 à numéro 1. On n'est même pas sur un numéro 1 bis et on assiste au déclassement de Lando Norris qui était le numéro 1 et qui va devenir le numéro 2, qui est en train de le devenir. Parce que rien que comme le disait Jean-Luc, les déclarations, on a entendu Norris dire « Non, mais dites pas qu'on a la meilleure voiture, mettez Max dans la McLaren, il peut venir faire des essais, vous allez voir et tout. » Et t'as Piastri qui, trois jours après, te dit « Non, mais on va pas se cacher, oui, on a la meilleure voiture. » Dire autre chose serait pas correct. Donc déjà, au-delà des qualités en piste de pilote, tu vois dans l'approche mental, il y a quand même autre chose. Piastri, il assume. Et là, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait devant au classement des pilotes. Mais quand ça va le devenir, je pense que ce ne sera pas un souci pour McLaren de clairement prioriser Piastri. Et ce sera peut-être même le salut pour McLaren pour aller chercher le titre de champion du monde des pilotes. Parce que champion du monde des constructeurs, on ne va pas dire que c'est plié, mais enfin presque. Et donc, voilà, Piastri très solide, impressionnant. La vitesse, il mettait en moyenne 4 dixièmes par tour à son coéquipier. Le rythme de Piastri, personne ne pouvait le suivre. C'était juste incroyable. Je sais que Jean-Luc a les meilleurs temps autour.
Évidemment.
Si tu veux dégainer, c'est le moment.
Allez, 1.35-140 pour Piastri, bon, qui était devant, hein, qui n'était pas gêné. Et Norris a toujours été dans des turbulences, on le sait bien. Ouais. Mais 1.35-728, 6 dixièmes, c'est quand même énorme.
Après, c'est vrai qu'il est dans ce fameux air sale là et que ça affecte les performances. T'as raison. Louis, tu sens que c'est déjà un Grand Prix un peu charnière, un peu tournant là, qui bascule vraiment les situations entre Piastri et Norris.
Bah, on attendra peut-être la fin du triple header pour avoir
après l'Arabie Saoudite la semaine prochaine.
Exactement, il y aura une petite pause, il y aura moyen, mais c'est vrai que là on sent la dynamique pour le coup, l'air sale. Norris, il est dedans depuis quelques semaines parce que vraiment. On sent que, un peu comme parfois, quand les pilotes, ça leur échappe, ça commence à leur échapper de plus en plus. On avait vu ça dans d'autres sphères avec Pérez qui faisait des bonnes choses. Et puis d'un coup, ça lui échappe de plus en plus. Puis à la fin, tu te retrouves avec un gars qui n'arrive plus à avancer. Alors, on n'en est pas du tout là pour Norris. Mais on sent quand même qu'il accuse le coup mentalement. Il n'est pas bien dans sa voiture. Il n'arrive pas à faire les choses bien. Et puis à côté, il a un gars qui... C'est vrai que ça lui fait mal, que ce soit les temps que Jean-Luc a donné
où les déclarations, la déclaration selon laquelle ils ont la voiture la plus rapide et que derrière, il le dit, mais il le fait. C'est-à-dire que dans la voiture, il montre à tout le monde qu'en effet, la McLaren, elle est bien devant. Ah, ça, c'était violent quand même pour Norris. Et on ne va même pas parler de... Bah ouais, ouais, il est touché dans la tête parce que son c'est pas un jump start, mais son erreur au départ, c'est quand même quelque chose.
Bon, oui, ça, c'est énorme.
L'année où tu dois gagner, l'année où t'es le favori, c'est plus l'heure de faire ça.
Tu mets une roue devant la ligne.
Ouais, et puis alors, Verstappen qui rate rien direct. Lando, là, les gars, il a mangé la ligne. Putain, mais quel. Lui, c'est un cyborg, il voit tout, il rate rien.
Ouais. Il a des yeux tout le tour. Hein,
ah là là, il est impressionnant pour ça, même, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand il dominait tout et que son ingénieur lui dit un truc, il fait ouais, je l'ai vu dans le grand écran, t'inquiète. Le gars, ouais, c'est ça, il a des yeux dans le dos. Quoi,
lui, il va finir commissaire à la FIA,
on peut vous le dire. Déjà, tu veux le plus dire.
Les décisions tourneront plus vite, je pense, avec Verstappen. Ça ira, bam.
Et pour ajouter à ce que disait Louis à l'instant, quand même 132 départs en Grand Prix pour Norris, c'est plus un perdre de l'année.
Non, bah clairement, c'est clair.
Alors, et juste, pas vieux, hein,
on parlait des écarts en course, mais il y a quand même 4 dixièmes sur le Tour de Qualif en Q3. Hein.
Ouais, ouais. Ah bah
bien
oui,
sûr, bah bien plus, sûr.
Mais c'est pas qu'une question de ça.
Ça part de là. La qualif est très violente pour Lando Norris et ça lui conditionne sa course. Je pense qu'il est hier, il est touché mentalement au départ.
Là, Jean-Luc, t'es un des boss de McLaren. T'es Zach Brown, t'es Andrea Stella. Non, mais tu sens qu'il faut prendre cette décision d'inverser un petit peu les statuts là. Ça y est.
Bah écoute, je crois qu'il faut déjà arrêter d'essayer de privilégier Norris. Alors bon, là après cette course là, je pense que ça va être terminé. Mais on a vu dans le passé à quelques occasions, et notamment lors du dernier Grand Prix au Japon, hein, où Piastri avait demandé, on a dit non. Ils ont tellement peur de se prendre les pieds dans le tapis comme en Hongrie l'an dernier. Je le rappelle, la première victoire de Piastri qui avait été dans des conditions rocambolesques, parce qu'il s'était planté chez McLaren en faisant l'undercut sur le propre équipier. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je veux dire, on a l'impression que y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions et qui a des stratégies ? Heureusement qu'ils ont la meilleure voiture de très très loin. Hein. Maintenant, il va falloir, oui, là maintenant... prioriser, alors je sais même pas, mais leur donner vraiment les mêmes chances, parce qu'on sait pas tout hein, dans les équipes, parce que depuis le départ de cette saison, Piastri avait vraiment toutes les mêmes cartes que celles de Norris, je ne suis pas certain, ça y est, je mets le verre dans le fruit, donc maintenant je pense qu'il va les avoir, en plus avec 3 points d'écart entre les deux, et puis comme vous l'avez dit tous avec justesse, je pense que la bascule, ça peut être des Jeddah, hein, parce que là le Piastri maintenant, lui, il veut aligner l'épaule et les victoires, donc je pense qu'il il va pouvoir le faire.
Même si je pense que, tu vois, chez McLaren, il faut laisser faire, entre guillemets, la sélection naturelle.
Oui,
pour que ça soit
c'est très tôt,
compris
c'est très tôt, je suis
par Norris de dire, écoute, t'as vu l'autre, ouais, là,
bah, t'as vu ce qui te met, t'as vu ce qui te
au classement
met,
des bah, pilotes, ouais. Il a fait 2 fois plus de victoires que toi, il te bat en qualif, donc tu vois, faut aussi
Une
laisser...
logique, une logique.
Voilà, on les laisse sur le début de saison, on va attendre peut-être encore Miami pour vraiment trancher, voir. Est-ce que la McLaren, une fois qu'on aura un peu sanctionné la flexibilité de ces fameux ailerons, on en parle. Hein.
Ah oui.
La réglementation va se durcir, on se dit McLaren devrait prendre les points maintenant. Voilà, si, faut dire, Piastri est le numéro 1 et Norris, tu seras son équipier cette saison... Il faut qu'il y ait matériellement quelque chose au classement, en victoire,
oui, il faut
etc.
que ce soit une évidence pour pouvoir le dire. Ouais. Tiens, on va écouter Oscar Piastri au micro de nos collègues de Canal, en français dans le texte, pour démarrer. Et bon, c'est peut-être la première fois qu'on l'entend un peu...
Est-ce que c'était des cours payés par Alpine, ça?
Ah, oui, probablement, en plus.
C'était le ticket de sortie.
Mais bien sûr, t'as raison, c'est ça. Allez, on écoute Oscar Piastri.
Oui, je suis content.
I
have a great car.
Bonne voiture.
Yeah. Yes. It's been a great weekend. A great, great weekend.
Ça a été un
qualifying
super weekend.
Obviously set up a lot of today's
un très, très bon weekend. Les qualifications ont conditionné énormément le résultat de la course et je suis fier de ça. Et la course a été assez linéaire, pour être honnête. Le safety car a été le seul moment qui aurait pu être plus difficile. Dès que j'ai pu tirer l'écart avec George Russell, ça a été une course en douceur. Voilà. En plus, tu sais, il a ce côté côté où il est franc et du coup ça humilie un peu les autres quoi. C'est genre non mais tranquille, la course ouais. ça a été vraiment en sifflotant quoi.
J'ai ramené la voiture à la maison tranquille.
Ouais c'est ça, j'ai ramené la bagnole, tout va bien, j'ai pas été inquiété parce que c'est vrai qu'il y avait en plus cette gestion de la voiture de sécurité, Louis, en fin de course. Quand t'es un jeune pilote, mine de rien, tu pourrais te laisser un peu envahir par la pression. On l'a vu avec d'autres pilotes dans un passé assez proche. Lui, il y a rien qui le fait bouger quoi.
Bah, je pense que c'est vraiment la première chose qui transpire chez lui, où là où on est tous unanimes, c'est ce sang-froid dont parlait Jean-Luc tout à l'heure. Moi, parfois, en rigolant, évidemment, je l'appelle le serial killer parce qu'il a ce côté. Le tueur froid. Et tu sais que dans la voiture, alors que pourtant il a une gueule d'ange et que tu vois, il est sympa et tout, même s'il reste très discret, c'est vrai que tu sais qu'il est, il est de la trempe de ceux-là, dans le côté tueur comme ça, comme Schumacher, comme Verstappen, qui ne laisseront jamais un demi-mètre, un demi-truc, contrairement à d'autres qui n'ont pas ça. Et je pense que Lando, pour le coup, ça lui manque un petit peu, tu vois. Donc là, Piastri, c'est aussi là-dessus qui fait la différence. Donc, Oscar, cette année, il peut gagner le championnat dès cette année. Et là, ça serait quand même assez incroyable comme montée en puissance pour ce jeune Australien qui était encore, il y a 2 ans et demi, en réserve alpine.
Ah oui. Donc, c'est à peine son 50e Grand Prix.
Ouais.
Même si aujourd'hui, avec 24 par saison, 23 par saison, oui, les gars, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils ont plus de grands prix que des grands champions.
Ouais, absolument.
Enfin, tu vois, donc les chiffres, il faut les
faut relativiser les chiffres.
Voilà, par rapport à on va dire, à l'ancienne F1.
Non, mais sur la même génération.
Mais sur la même génération, comme dit Arnaud, ils sont tous pareils. Et 50 grands prix, finalement, aujourd'hui, bah, c'est pas énorme. Et il est déjà favori, quoi. Donc, la dernière fois, c'était Hamilton qui a été favori si tôt, peut-être.
Pardon de t'interrompre, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quand même 50 Grand Prix, quelle que soit la durée.
Exactement.
Parce que je veux dire, c'est 50 départs en Grand Prix.
Oui, bien sûr.
Donc là, quand par exemple, Norris se plante au 132e départ, comme tu dis, bah, effectivement, Patrick Tambay, c'était 114. Longtemps, Jacques Lafitte, excusez-moi de vous parler d'anciens, mais c'était le recordman avec 174 Grand Prix, tu vois un peu. Ouais. Il en est à 132. Donc je veux dire, les départs, il les a eus. Mmh. L'expérience, il l'a. Alors évidemment, moins de temps, je suis d'accord.
Détaillons un petit peu, Jean-Luc, là, le week-end de Norris, parce que alors, lui, il a vécu un week-end compliqué. Ah, hein, oui. Il rate sa qualif. Pénalité sur la grille, on en parlait là, parce que il s'est mal positionné sur la grille de départ. Des difficultés après la voiture de sécurité. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et il l'a dit derrière en interview. Il a dit que voilà, il se sentait pas très bien dans la voiture par rapport à l'an dernier, que lui personnellement il se sentait prêt, il avait bien bossé cet hiver, mais qu'avec la voiture il n'y avait pas un super feeling.
Ben c'est ça, c'est-à-dire que il ne reproche rien à la voiture, il l'a d'ailleurs dit clairement après. Il est presque contradictoire, hein, parce que il nous dit avant, pour essayer de se protéger, la McLaren n'est pas la meilleure voiture, et Piastri derrière, sans lui répondre directement, dit mais si, bien sûr qu'on l'a, comme Brown le dit et comme tout le monde le pense. Bon, ça c'est fait, donc c'est un aveu de faiblesse quelque part. Et puis finalement, au résultat, il dit ben non, c'est moi, finalement c'est moi. Donc il avoue bien qu'il a la meilleure voiture intrinsèquement, mais qui ne sait pas l'utiliser, qu'elle est peut-être difficile à piloter. Alors les petites passes d'armes verbales, bon ça c'est toujours intéressant pour nous, puis ça fait du buzz. Quand Verstappen dit moi j'aurai une McLaren, je partirai devant, personne ne me reverrait, bon bah c'est le jeu de la provoque, je veux dire, et ça c'est, on s'envoie des petites piques, ça pratiquement toujours été le cas, hein, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est plus immédiat, plus instantané, plus repris partout sur les réseaux, etc. Donc la petite phrase anodine qui fait mal. Et puis, pareil, Verstappen, on le disait, Louis et Arnaud le soulignaient, dans le jeu psychologique, c'est pas le dernier, hein, parce que lui aussi, il a beau être encore très jeune en âge, mais avec l'expérience qu'il a et avec ses 4 titres, il sait comment on peut mettre des coups de pique et des coups d'aiguille, et c'est ce qu'il est en train de faire. Bah, c'est un roublard, tu parles, puis il se dit bon, moi j'ai vraiment, et là on l'a bien vu, j'ai vraiment la 4e voiture du plateau, parce que bon, les résultats au classement constructeur, certes, Red Bull est 4e avec 71 points, mais bon, vous le savez bien, là, Tsunoda a marqué, mais c'est la première fois, il n'y a que Verstappen qui marque, donc la voiture elle est bien derrière, et pour moi bien derrière les Ferrari aussi, je suis désolé, enfin c'est mon avis. Bon, mais on revient, tu m'as demandé de parler de Norris. Ben, Norris effectivement, il est déstabilisé, je pense. Alors tu sais, moi je pense toujours à autre chose, on n'en parle jamais. Est-ce qu'il a
un problème personnel, j'en sais rien. Tu sais, parfois, ces types-là, ça peut être des lames, des reins. Tu peux être attaqué, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être quelqu'un dans son entourage qui ne va pas bien. Ou, j'en sais rien, il n'est pas à fond dans son truc. Et puis, la nature, moi, je pense que, encore une fois, c'est un golden boy britannique, donc couvé par toute la presse britannique, qui est quand même 80% de la Formule 1, on va être clair. Donc, c'est lui, c'est
dans
pour lui...
Dans une écurie britannique,
bien sûr. Donc, il est porté. Et puis, bah oui, mais ça ne suffit pas. Là il faut donner. Hein. Il faut être au niveau de ce qu'on attend de lui. Et pour moi, encore une fois, je ne vais pas le descendre, hein, le pauvre garçon. Plus, il a dit, vous vous rappelez des déclarations, là, il y a quelques semaines, où il a dit, moi, je voudrais être champion du monde en étant propre, clean, gentil.
Ouais.
Mais non,
ouais.
On n'est pas champion du monde en étant gentil. Il ne faut pas être un salopard, encore qu'il y a eu des salopards champions du monde. Je ne vais pas citer les noms. Mais je veux dire, c'est autre
chose.
C'est
dur pour Fangio.
On est champion du monde en étant teigneux et méchant.
Voilà. Mais il y a un truc qui est quand même fou, c'est qu'on parle d'un Norris qui n'est pas bien, qui, quand on voit Piastri, on peut dire sous-performe, mais c'est encore peut-être le deuxième pilote du plateau quand tu vois les temps qu'il sort. Alors, il s'est raté en qualif. Mais quand tu vois le rythme qu'il a, il est au même niveau que Russell, que Leclerc, en n'étant pas bien. C'est très paradoxal quand même.
Parce qu'il a une super voiture. Et quand même, là, je te dis, on ne saura jamais. Hein, mais ce qui serait intéressant, c'est évidemment Verstappen. Mettre Verstappen comme il le proposait, bah oui, ça, ce serait super.
De toute façon, une voiture comme la leur, elle gomme tout. Tout à l'heure, tu parlais de la stratégie. McLaren, ils sont pas vraiment meilleurs en stratégie que l'année dernière, sauf que la voiture leur permet de gommer leurs erreurs.
Tout à fait.
Et donc, t'as moins de risques à te planter, puisque de toute façon, si tu perds 2-3 secondes, tu peux les rattraper dans le Grand Prix, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et voilà, donc la voiture aide Norris à performer. Mais oui, il a besoin clairement de redevenir, je ne sais pas si c'est devenir, redevenir, mais de vraiment repasser le palier qui pour moi, il avait atteint. Mais il est repassé dessous, là, vraiment, il refait trop d'erreurs,
mais
trop de choses.
Mais est-ce qu'il ne serait pas là en train de très mal digérer sa fin de saison l'année dernière, où il y a
je pense pas, parce qu'il avait bien démarré la saison. On parle quand même d'un gars qui est encore leader du championnat.
Oui, bien sûr.
Donc, il avait bien démarré la saison, qui avait gagné le premier Grand Prix. Donc, mais je suis pas sûr.
Tu vois la dynamique. T'incites pas à l'optimisme quand même.
Piastri, il en gagne deux sur les trois dernières, hein, déjà pour être clair. Hein.
Bah ouais. Non. Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute, tiens, Lando Norris? C'était à la fin de la course, il était un peu plus optimiste que dans les déclarations d'après quand on est allé le chatouiller en conférence de presse. C'est au micro de Canal+.
My start, my first lap was very strong, was very good.
Mon départ et mon premier tour étaient vraiment très solides. Mais c'était mieux que ce que j'attendais. Donc je suis content de ça. J'étais agressif, ça a payé. Bon, autrement, franchement, un bon rythme, mais trop d'erreurs de ma part. Je suis pas là pour me battre avec Charles. Je devais être au moins deuxième aujourd'hui. J'avais aucune chance de battre Piastri. La deuxième place était mon objectif. Je termine troisième, donc je suis pas très content aujourd'hui. C'est la vie. Et il y a beaucoup de choses à apprendre et sur lesquelles je dois travailler. Donc,
mais tu vois, voilà. Il est quand même 4 courses, 4 podiums.
C'est
vrai qu'on est très pessimiste,
non.
Parce qu'on voit les mauvaises ondes. Enfin, c'est fou quand même de se dire ça.
Ouais. Il souffre de la comparaison avec Verstappen l'année dernière. Quand Verstappen avait la meilleure voiture, il atomisait le plateau.
Ouais.
Norris a la meilleure voiture. On s'attendait. Ok, maintenant on est habitué. Le gars qui a la meilleure voiture, il détruit tout le monde. Parfois, au dépend du spectacle ou du plaisir de regarder un Grand Prix. Et là, Norris, il n'y a pas ça. Norris, il se fait embêter tout d'abord par son coéquipier, même plus que ça, même parfois par des adversaires. Hier, il lui a fallu... Charles, il s'est quand même pas mal bougé dans les zones de freinage, mais il lui a fallu quand même batailler vraiment avec une voiture qui est un cran en dessous aujourd'hui. Et donc, tout ça fait que, on est déçu, alors que, comme dit Arnaud, en fait, le gars, il est en tête du championnat, peut-être que tout va bien, quoi, mais on voudrait que tout aille encore mieux, quoi.
Et il est en tête parce que Piastri avait quitté la piste en Australie, on se rappelle, c'est ça la raison.
Ouais.
Alors, on va me dire, Norris a été plus talentueux.
Ouais.
Oui, mais lui, il était revenu sur la piste, s'était arrêté direct.
Ouais.
Donc, je veux dire, il a payé l'addition Maxi, Piastri, après, il est revenu dans les points, mais comme ça, mais c'est ça qui fait la différence.
Ouais.
Parce que sans rêver avec des si, on remet toujours pareil en bouteille, mais même si Piastri avait terminé 3 en Australie, ce qui était le minimum syndical, bah, rendez-vous compte, bah, il serait en tête du championnat, puis largement.
Ouais. Bien, voilà. bien. Bah, ouais.
Tu sais, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus le restart après la voiture de sécurité où tu sens qu'il n'arrive pas à prendre le meilleur sur les voitures qui sont devant, alors qu'il est censé le faire et que...
Bah, oui. Ouais.
Il manque d'agressivité et c'est là qu'il doit faire la différence, Jean-Luc. Quand t'es un top pilote, là, avec cette opportunité de la voiture de sécurité à quelques tours de la fin, tu dois engranger.
Encore une fois, bon, je suis désolé, mais ça apporte un éclairage. On va prendre les temps en course. Norris, quand même, est capable au 38e tour de rouler en 1:35.728. Et Charles, sur qui il a buté un bon moment, il est à plus de 4 dixièmes de là, 1:36.132. Donc ça, c'est pas normal. Il n'est pas assez tranchant, voilà. Pas assez tranchant dans les attaques. Quant à Russell, on va y venir tout à l'heure, mais avec sa voiture bourrée de gremlins dans tous les sens, ou quand il appuyait sur le bouton sèche-cheveux,
sur la radio,
c'était le café qui se mettait en route, et éventuellement
il avait... Heureusement qu'il n'y a pas un bouton siège éjectable,
Sinon, là, il est atomisé direct. Donc, bon, il y a presque cheveux et presque café aussi, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, même comme ça, il n'arrive pas à le dépasser. Non, attends, il n'y est pas, là, je suis désolé. Alors, bon, il va assurer, comme tu dis, il monte sur le podium, il est là, mais parce qu'il a une voiture extraordinaire. Et là, il faut qu'il retrouve la niaque. Voilà, il n'y a pas d'autre mot.
Bah, de toute manière, je vous lis sa déclare, hein, mais la phrase, elle est choc. Il dit « Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas bien. Donc, je suis assez surpris d'avoir obtenu ces résultats, une victoire et 3 podiums parce que quelque chose ne fonctionne pas. » Donc, voilà, le constat, il est assez lapidaire pour Lando Norris. Bah, parlons, tiens, justement, de cette Mercedes de George Russell, troisième podium en 4 courses. Louis Mercedes qui s'impose comme la deuxième force du plateau derrière McLaren. Ils sont assez loin des McLaren, mais malgré tout Russell ultra constant, on en parlait la semaine dernière après Suzuka, c'est encore le cas, il déçoit pas, tu sens qu'ils n'ont pas le potentiel pour aller chercher autre chose, mais ils sont là où ils doivent être quoi, les Mercedes.
Ouais, c'est le Russell en mode de l'époque Williams, c'est-à-dire tu le mets dans la voiture, il va aller chercher tout ce qu'il peut avec cette voiture là et c'est le cas aujourd'hui avec Mercedes, et donc il fait un travail important parce que à côté dans le garage d'à côté, ils ont certes quelqu'un de talentueux, mais de rookie. Donc, c'est lui qui doit amener, on va dire, les évolutions, les feedbacks, tout ça. Ça doit venir de lui. Derrière, ça doit venir de lui aussi, les meilleures performances. Et tout ça, il a l'air de le faire. Il a l'air de le faire à la mode Russell, très British 007, là, hier, dans sa petite radio, quand il nous dit « Oh, c'est very audacious ».
Sur les softs.
Ouais. Donc, tu vois, quand d'autres te diraient « C'est quoi ces pneus à la con et tout, lui c'est very audacious et tout.
Ah, il va pas prendre une praline, hein, lui, il va pas prendre une amende, t'es tranquille.
Ouais, c'est sûr. Mais alors, je sais qu'il y en a certains justement qui du coup le trouvent trop lisse. Mais moi, ce que j'aime bien dans le paddock, c'est justement.
Bah, tout le monde est pas
voilà,
pareil.
C'est que t'as des têtes brûlées, t'as le mec machin et tout. D'ailleurs, il est au GPDA, il est le patron des pilotes. Et parce que tout ça est quelque chose qui l'importe. C'est un gars réfléchi. Et hier, sa voiture, il l'emmène avec, comme dit Jean-Luc, avec un volant. Enfin, ça doit quand même être assez flippant quand tu veux parler à la radio, que t'es l'aileron qui se lève, comme tu dis, t'imagines t'es dans un virage rapide, c'est finito.
Faut revenir sur ce fait de course, Arnaud, là. Raconte-nous ce qui s'est passé à la fin, parce qu'il aurait pu être pénalisé. En plus, il a ouvert son DRS de façon accidentelle.
Alors, il y a plein de choses. Je crois que le premier bug, tout le monde l'a vu, c'est qu'il y a un bug de GPS. Et donc, on l'a vu dégringoler au classement sur le côté gauche. Moi, j'avais.
On a cru qu'il avait abandonné à un moment. Hein,
ouais. L'étant en direct. Ouais. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. On voit rapidement sur le tracker qu'il est toujours là.
Et puis sur l'image, on le voit derrière. On dirait, il y a un problème là.
Et donc, on dit, tiens, c'est bizarre. Alors, ça peut arriver. Donc, ça, c'est l'électronique embarquée, officielle FIA pour toutes les communications, la télémétrie, etc. Et tout. Et on s'aperçoit que. C'est un petit problématique avec la radio. Là, on dit, écoute, il y a un problème avec le déclenchement automatique du DRS, ou en tout cas, tu arrives dans la zone, que tu n'es plus juste à appuyer parce que tu es autorisé. Il dit, on va peut-être t'expliquer, sa radio, on va peut-être t'expliquer comment passer outre et forcer l'ouverture du DRS. Sauf qu'on s'aperçoit
avec
que le DRS...
Avec le bouton de secours, c'est ça.
Avec le bouton de secours. Sauf que visiblement, quand lui appuyait sur le bouton pour la radio... le bouton talk, ça ouvrait le DRS. D'ailleurs, ça s'est ouvert de manière inopinée en dehors d'une zone DRS. Et finalement, après enquête, les commissaires ont vu qu'il avait gagné 2 dixièmes à ce moment-là, mais qu'il avait ralenti au virage derrière où il avait perdu presque 3 dixièmes. Donc il n'a pas été sanctionné pour ça. Visiblement, il y a d'autres pilotes qui ont eu ce problème de DRS, mais à un moment donné, la radio a dit tour de la fin à Georges. Ou alors, tu vas peut-être perdre ton écran. Donc tu ne verras plus rien sur ton écran, donc tu ne verras plus tes rapports, ce qui est un peu embêtant, surtout avec ces moteurs hybrides, va faire ça au son.
Ils n'entendent rien de toute façon. Donc
plus tu n'as pas les LED pour le bon changement de rapport au bon régime, et on se dit c'est presque un petit miracle s'il allait rendre la voiture. On a eu Fernando Alonso avec son volant qui se
décroche démontable.
Ça c'était fou ça.
Tiens, je te passe le volant, non, je te le passe vraiment. Ah oui,
les gendarmes, tu sais, quand Cruchot il donne à Gilbert,
c'est exactement ça. Et puis attends, le problème de frein aussi, parce qu'il avait l'assistance de frein complètement déréglée, des fois la pédale longue, et ça c'est quand même l'angoisse quoi. Il y a quand même 3 lignes droites avec DRS où t'arrives à 340 quand t'appuies sur la pédale et que tu sais pas trop ce qui va se passer.
Que t'es à ton point de freinage et là...
Attends, ça c'est l'angoisse totale. Ça c'est le cauchemar de tous les pilotes.
Il fait donc une course assez énorme, Jean-Luc, là, avec tout ce qu'il a vécu, toutes les péripéties, l'ami Russell.
Bah écoute, moi, pareil, je l'aime bien, ce type-là. Et pareil, j'aime bien le pilote, c'est un mec solide. Alors, effectivement, il est discret. On sait que, bon, je ne vais pas commencer à dire qu'il est sur un siège éjectable, mais enfin, il a un contrat qui s'arrête à la fin de l'année, hein, pour le moment. On va voir si Mercedes le renouvelle et quand. On sait qu'Antonelli, derrière, il a un contrat à vie, le fils adoptif de Toto. Je vais le faire à tous les coups. Donc, bon.
Antonelli.
Antonelli. Bravo, excellent. Mais donc, Russell, on s'est même dit, alors il n'est pas très loin, hein, le gamin, il est toujours excellent. On s'est même dit, au bout de combien de temps Antonelli va aller plus vite que Russell? Russell, il tient la baraque, il est là, effectivement. Au championnat, il est 4, il fait de bons résultats, malgré donc une monoplace un peu burlesque, on va dire ça comme ça. Donc, moi je suis content pour lui. Et puis en plus, ça apporte du piment, parce qu'encore une fois, il vient quand même perturber un peu le jeu des McLaren, malgré tout. Il est là au milieu, il arrive à en bloquer une. Bah écoute, tout ce qu'il peut, j'ai rien contre eux, encore une fois, du tout, hein, mais ce qui peut perturber l'avancée triomphale des McLaren, c'est génial. On a eu Verstappen, j'espère qu'on l'aura encore. On aura peut-être bientôt les Ferrari, parce qu'on va en parler. Les améliorations techniques, ils vont peut-être avoir un bénéfice plus important à Jeddah qu'ils ne l'avaient à Bahreïn. Bon, on va voir.
Moi, je pense que Russell va rester là. C'est juste qu'à chaque Grand Prix, il gagne $1 million par saison avec ses bonnes performances sur le contrat. Surtout qu'il y a eu, petit aparté, la fameuse réunion sur la motorisation où le V10, c'est peut-être plus mal embarqué que ça pour un retour, puisqu'on va garder globalement la même quelques évolutions.
On peut en dire un mot, mais pas tout de suite, c'était normal, hein, pour te reprendre. Insensé de penser que ça allait être terme. Alors, on avait évoqué, certains ont évoqué 2027, c'est une hérésie. En plus, il y a deux constructeurs qui arrivent en ayant signé là-dessus, comme on le sait bien, Audi et Cadillac. Donc,
mais
ça,
il y a plus 2030.
Après, on a parlé 2029. Moi, je pense que 30-31, c'est vraisemblable, si ça se fait, bien sûr.
En fait, il y a eu une réunion avec les principaux motoristes et des bruits qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, Mercedes n'est pas du tout chaud parce qu'ils disent « Notre moteur pour l'année prochaine est une véritable bombe qui va aller très vite. » Donc,
ça va faire plaisir à Alpine.
Ouais. Tout de suite,
Les gars, ouvrons le dossier Red Bull, parce que là, Red Bull, l'arbre...
Ça va bien, Tsunoda est dans les points.
C'est la seule éclaircie du week-end pour eux, clairement. Parce que Verstappen, qui était capable de camoufler toutes les errances de Red Bull, a été à sa place pour la première fois. Peut-être. Et encore, on se dit qu'il aurait pu être plus loin. Il termine quand même sixième. Et puis surtout, les mots de Verstappen après la course, je vous propose de l'écouter tout de suite. Mais il n'a pas du tout réussi à maîtriser sa voix. Mais pas tant que ça. Il a été assez bavard. Mais on comprend toutes les problématiques qu'il a vécues dans le week-end. Écoutons-le.
P6 is good, looking at what we all had.
C'est un bon résultat après tout ce que nous avons vécu ce week-end pendant la course. Mauvais départ, le rythme mauvais, le premier arrêt au stand s'est mal passé parce que les lumières sont restées allumées pour rien. Alors, on n'avait aucun rythme sur les pneus durs, c'était horrible. Et puis deuxième arrêt au stand, il était encore pire que le premier. Donc, je croyais que j'étais dernier quand je suis sorti. Donc finir P6, c'est quand même un bon résultat, étant donné notre rythme et tout ce qui s'est mal passé pendant la course. On est derrière McLaren, derrière Mercedes et derrière Ferrari. Donc P6, P7, c'est là où on doit être. De manière générale, nous sommes plus rapides que les autres voitures, mais aujourd'hui, même la sixième place n'était pas facile à avoir. Bon bah voilà, il le dit très clairement, hein, Jean-Luc, hein, on en parlait de cette fameuse hiérarchie. Ils ont la quatrième monoplace. Voilà. Et encore à Bahreïn.
Certains disent même la cinquième. Hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ah, ouais.
J'allais dire encore à Bahreïn, ils étaient peut-être même pas la quatrième voiture du plateau.
Ouais. C'est vrai, bah écoute, une nouvelle fois, il a été d'une franchise absolue avant, pendant, après. Donc, l'effet Verstappen, là aussi, temps en course, hein, pardonnez-moi, mais bon, il fait le même que la Ferrari de Charles Leclerc, pratiquement. Donc, une 36-132, je le répète, pour Charles. Et Verstappen, malgré tout son talent, je ne dis pas que Charles n'en a pas du tout, hein, mais une 36-167. Alors, c'est au 29e tour, lui, qui fait ça. Alors que bah, Charles, comme les autres, c'est après avoir monté des nouveaux pneus, hein, après la neutralisation. Donc, non, je crois que là, il y a un moment, oui, l'effet Verstappen, c'est pas que ça va pas se reproduire. Hein, ça, on va peut-être complètement changer de hiérarchie lors du prochain Grand Prix. Et heureusement, c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de changer. Ou à Miami, où il va faire chaud également, où le tracé est différent, etc. Il faut encore attendre avant d'être définitif. Mais ce qui est certain, c'est que la Red Bull doit progresser. Et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est que son comportement est totalement erratique. Il le dit à chaque fois. Des fois, il perd l'avant, il perd l'arrière. Enfin, mais même lui, il est paumé. Alors là,
il les freins, il a pas arrêté de râler sur les freins.
Oui, les freins. Depuis les freins, bien sûr.
Les FP, hein.
Elles freinent pas, elles tournent pas. Enfin, c'est une cata. Et là, effectivement, c'est rendre hommage à Tsunoda que de dire, comme vous l'avez dit aussi déjà, que il est rentré dans les points pour son deuxième Grand Prix avec Red Bull. Le premier était piégeux et piégeant et chez lui, bon, etc. Là, ça y est, il a trouvé à peu près le mode d'emploi. Donc il a fait le boulot. Tsunoda qualifié 10 et donc il termine 9. Bon, bah, il fait le boulot. Il fait à peu près à son niveau aussi bien que Verstappen, ce qui est quand même un sacré hommage. Non, il y a un gros problème. J'espère pour eux qu'ils vont apporter des évolutions parce que l'équipe n'est pas devenue mauvaise d'un seul coup. Bon, on va ressortir. Allez, je ressors le serpent de mer. Est-ce que quand même, il y a quand même un ingénieur de renom, vous voyez ce que je veux dire, qui a plus travaillé sur la voiture depuis un an.
Adrien Newey.
Et ben voilà. Je te laisse le citer. Donc ça veut dire que on n'a pas évolué comme on aurait dû déjà la saison dernière, on l'a bien vu. Et puis cette année, on gère. C'est la dernière année de ce règlement. Alors bon, ça va être long, hein, pour Verstappen et pour Red Bull cette année s'ils ne trouvent pas quelque chose là.
C'est la pire course depuis bien longtemps, les gars, de Red Bull là. Même un peu au niveau collectif. Je ne sais pas où est-ce qu'on remonte, mais là... Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas vu Red Bull autant en galère.
Bah, paradoxalement, que ce soit en qualif ou dimanche. Paradoxalement, au niveau équipe, du coup, c'est une des meilleures puisque c'est la première fois qu'ils sont tous les deux dans les points depuis un moment.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont impuissants.
Mais oui. Sinon,
même si tu as les deux voitures dans les points, t'en marques 10. Quoi.
Alors, je peux te dire, mon Nico, juste un mot puisque tu poses la question. Sixième en Italie, Verstappen. Sixième au Mexique. Sixième au Mexique, 10 aux États-Unis.
Il avait abandonné en Australie.
Ouais. Mais peut-être
oui,
Monza. Peut-être à Monza, mais tu vois, dans la sensation que l'équipe est vraiment en dessous des autres. Moi, franchement, quand je regardais la course hier, tu avais l'impression qu'il pouvait rouler autant qu'il voulait, Verstappen. Il n'allait jamais y arriver, en fait. Alors que,
Même à rater des arrêts au stand, tu te rends compte.
Oui. Ah, c'est incroyable, l'histoire du feu, là. Ah ben là aussi, avant, tu avais la sucette, tu sais, avec le gars qui relevait. Au moins, tu n'avais pas un feu qui s'allumait. Si le gars qui tenait la sucette n'était pas paralysé au moment de la relever, c'était bon, quoi. Non, mais là aussi, il y a un moment, tu sais, j'adore.
Mais t'en avais un à côté, tu sais, ils ont mis un deuxième feu.
Marchait pas non plus.
Et puis, pas qu'une fois, ça a foiré à tous les coups. Hein, d'habitude, ils étaient excellents. Ils arrivaient à changer. C'est pas eux qui ont le record. Ouais, une seconde 8 ou une seconde 9.
Là, c'est
dément. Là, il fallait un sablier pour les chronométrer.
Je sais pas si vous avez entendu un petit peu ce qui s'est passé là dans le paddock après, mais visiblement, le conseiller, l'entourage de Verstappen était totalement fou furieux par les pertes de la Red Bull. Ils ont mis un gros coup de pression à Helmut Marko et à Christian Horner. Réunion de crise dès aujourd'hui pour essayer de travailler sur l'amélioration des performances. Et toujours, du coup, Arnaud, Louis, ce couperet là qui plane au-dessus de la tête de Red Bull, c'est que Verstappen active une clause de départ qu'il a apparemment dans son contrat et qui pourrait lui permettre de partir dès la fin de l'année pour la nouvelle réglementation. Donc ça aussi, tu sens qu'ils sont quand même sous pression. Il y a de la pression dans tous les sens de leur côté.
Tu sais, si Red Bull... raconter ce qui se passe chez Red Bull, on devait en faire une émission de radio, je pense qu'on les appellerait les grandes gueules. Pas d'accord, oui, parce que c'est ça, ils sont tous là. Le docteur Helmut, Helmut Marko, Christian Horner, Max Verstappen, Jos Verstappen, le conseiller, ils sont tous là. Alors le problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir toujours un peu entendu cette histoire. Les réunions, les machins, ça se passe mal, les tensions. Bon, écoute, moi j'ai envie de voir le prochain Grand Prix parce qu'ils sont capables encore d'aller gagner, tu vois.
Oui. Avec des évolutions pour Jeddah et puis une voiture prévisible, on va dire simplement. Ça lui suffit à Verstappen, une voiture prévisible. Il tire le meilleur.
Est-ce qu'on ne mettrait pas Verstappen dans la Racing Bulls?
Ça, on le dit en rigolant chaque semaine, ouais, mais ouais. Les essais de ce week-end ont montré que c'était tout sauf une folie de le penser. C'est-à-dire que contractuellement, au niveau de l'image, pour mille raisons, ça n'arrivera pas. En revanche, si on parlait, mais c'est ce que j'allais dire. Si demain tu fais juste un coup de hop, tu la mets en bleu et tu mets Verstappen. Tu sais, t'en fais une troisième pour Verstappen. Ça serait peut-être meilleur, quoi. C'est ça qui est dingue. Et là, c'est un vrai aveu d'échec, de l'écurie mère. C'est comme, d'ailleurs, maintenant, ils reviennent un petit peu grâce à Russell ou quoi, mais ça fait quand même plusieurs années maintenant que Mercedes est battue et bien battue par un client. Quand même toujours se rappeler
c'est
ça.
Humiliant.
C'est terrible, ça. Et là, Red Bull, c'est pas un client, c'est le petit frère. Mais alors moi, je suis fils unique, je sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que quand vous vous faisiez battre par votre petit frère, vous étiez vénère pour un moment.
Je l'ai vécu, je le vis encore. Ouais,
donc,
c'est pas facile.
Donc voilà. Et pour revenir sur ce que dit Arnaud, Red Bull F1, c'est 2007. Les grandes gueules, c'est 2004.
Ouais. Eh oui. Et qui a la Marshall Olivier Truchot entre Marco et Horner?
Ah ouais. Oh punaise. Non, bah là, je vous le dirai hors antenne parce que j'ai un boulot à garder.
On constate que parce que tu parlais de l'écurie mère ou motoriste, Alpine se fait pas battre par une équipe qui a un moteur Renault.
Non, par une équipe client, personne n'en a voulu. Donc voilà. Malheureusement.
C'est la technique.
Est-ce que les gars, ça peut tenir là quand même cette histoire de Red Bull? Parce que depuis, Jean-Luc, depuis tout ce qui s'est passé au niveau extrasportif là, avec l'affaire Horner, les déclats d'Helmut Marko, le fait que Verstappen surnage dans cet environnement.
On dirait qu'il s'aime plus, c'est ça, moi qui me choque.
Moi je me dis que si Verstappen n'y arrive plus parce que la voiture est tellement en dessous que même lui n'arrive plus à faire de miracle au bout d'un moment, ou alors qu'il se lasse un peu. Mais ça peut partir en sucette très très vite, là, les amis.
Alors, ils se détestent vraiment tous. Tu vois, tu peux, Jean-Luc, te respecter, avoir des relations professionnelles, de travail. Mais là, tu as l'impression que beaucoup de choses sont cassées
entre
les différents protagonistes.
Alors,
l'affaire Horner de l'année dernière, où il y avait eu
deux clans vraiment. Absolument. Et ça a peut-être laissé beaucoup plus de traces.
C'est possible, puisqu'effectivement, on se rappelle des propos du père de Max, Jos Verstappen, qui avait été très très critique, et le mot est faible, et même qui avait un peu joué en dessous de la table, si je peux me permettre, puisque bon, je ne trahis pas de secret, je l'avais dit l'an dernier, c'est que disons qu'ils avaient une relation en commun tous les deux avec Horner, donc tout ça c'était un petit peu privé qui s'est étalé sur le public, mais bon, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement il y a une scission. Alors je crois que c'est surtout la performance, parce que Max lui va s'intéresser qu'à ça, c'est ce qu'il a dit, la performance de la voiture qui a chuté brutalement et qui n'est pas revenue, la preuve, c'est même peut-être pire globalement. Il y a peut-être que le déficit de performance est encore plus important cette année. Alors, je rappelle juste que Verstappen a un contrat jusqu'à fin 2027, mais tu l'as évoqué, Nico, avec des clauses de performance, c'est une évidence. Et puis, le départ de Newey avait été rajouté. Ça, même Marco ne l'a pas nié. Donc, Newey est en partie chez Aston, puisque là aussi, il y a des bruits qui courent régulièrement sur le fait que si jamais Max partait, il pourrait aussi, pourquoi pas, enfin pour le moment Aston, il faut voir où ils sont aussi, mais enfin c'est un autre débat, donc il n'est pas encore parti. Moi je pense que 2026, je le vois rester, ne serait-ce que pour voir ce que le nouveau règlement peut donner avec Red Bull, à moins vraiment, que, comme tu le disais Arnaud, qu'il y ait un clash, mais alors violent, et pas public celui-là probablement, et qu'il déchire le contrat, et Horner avait dit aussi, on va pas garder un pilote contre son gré, surtout pas quelqu'un comme Max. Mais encore faut-il qu'il ait où aller, parce que là aussi, c'est pas si simple que ça. J'ai rappelé tout à l'heure que George Russell n'avait un contrat, lui, que jusqu'à la fin de l'année chez Mercedes, parce qu'on voit pas, pour être clair, c'est vite fait, s'il s'en allait, il y a McLaren, il y a McLaren potentiel, bon, mais les deux ont un contrat, il y a Ferrari, on va voir comment ça évolue.
Oui, bah, je vous sens...
T'imagines le line-up Verstappen-Hamilton ? Désolé Charles, mais...
Ou Verstappen-Leclerc.
Oui, mais juste Verstappen-Hamilton, je repensais à la saison 2021 et je me disais, ce sera incroyable côte à côte dans le garage. Ouais.
Alors, tu parlais d'Aston Martin, imagine une line-up Verstappen-Stroll.
Ouais.
On rigolerait. Hein.
Ah bah là, alors là, on rigolerait.
Mais c'est beaucoup moins.
Aston Martin,
moins
ça paraît aussi assez probable dans le sens où.
Avec le nouveau règlement et les investissements, la soufflerie, tout le bazar. Et
il retrouverait un motoriste qu'il connaît, avec Honda qui va arriver. Newey qui ne voulait pas qu'il parte, donc il serait content de le retrouver. Et derrière, il y a Lawrence Stroll qui a déjà fait des sorties, comme quoi il est prêt à sortir le chéquier.
Il y a des chiffres ahurissants qui ont circulé, et mettre
beaucoup trop de zéros, mais tant mieux pour lui. Et donc c'est possible. Et puis après, comme le disait Jean-Luc, il y a deux manières de faire. Il y a la technique d'Hamilton qui tente un pari un peu fou parce que on n'a pas encore roulé sur la nouvelle réglementation qui va déjà chez Mercedes. Et alors bingo.
Chez Ferrari.
Il y a 10 ans.
Ah pardon. Tu parlais de 2014.
Oui, pardon. Il y va avant la nouvelle réglementation et c'est quand même un sacré. Ce moment-là, on le dit, attendez, mais vous vous rendez compte, il est dans la McLaren, il va dans la Mercedes. C'est ça ce qu'on se dit à l'époque. Et là, le plat du pied sécurité, ce serait d'attendre la première saison son écurie.
Bien sûr.
Et là, tu vois les forces en présence et tu vas chez le meilleur, en gros, puisque comme tu es le meilleur, normalement, il va t'accueillir. Donc voilà.
Ouais, tiens, parlons quand même de nos Normands là, les amis.
Il est toujours pas prêt de Ferrari, c'est fou.
Il veut pas.
Non, mais je me le suis mis en fin de conduite dans le podcast parce que je me suis dit qu'au final on allait en faire le tour assez rapidement.
Oh, une cerise rouge sur le gâteau. Alors allez,
une cerise rouge. On termine. Non, mais je voulais qu'on parle de nos Français avant, surtout de la perf de Pierre Gasly quand même,
qui a
fait une séance de qualif vraiment extraordinaire samedi, alors qu'Esteban Ocon est passé à côté et Esteban Ocon lui a réalisé une performance en course assez incroyable pour se rattraper de ses erreurs de la veille.
Juste parti à la faute parce qu'il était bon.
Il a fait une erreur qui a pris
dans le deuxième virage, le vibreur.
Il avait plus de roue par terre, il n'y avait plus que le fond plat sur le vibreur. Pour changer de direction, c'est compliqué.
C'est un peu compliqué. Focalisons-nous là sur Pierre Gasly, Jean-Luc, qui a fait pour le coup. Alors ça faisait plusieurs semaines qu'il nous disait que il y avait de la perf dans l'Alpine quand même, mais ça se traduisait pas, ça se matérialisait pas, que ce soit en qualif ou en course. Là, il a réussi à tout mettre bout à bout et de quelle manière, franchement, surtout le samedi, ça a été assez incroyable. Hein.
Absolument. Alors il avait été bon en Australie parce que attends, là c'est de mémoire, mais je suis en train de vous le confirmer. Je crois qu'il était 9e sur la grille. C'était pas si mal l'Australie. C'était donc ça laissait peut-être envisager quelques bonnes performances sur certains circuits, mais là c'est vrai que là c'est remarquable. Là il a réalisé un tour de qualif formidable et puis on a tous bien compris maintenant qu'en F1, si on voulait briller en course, évidemment qu'il faut réussir et même surperformer en qualif. Après, moi le premier, je me disais oula, il va se faire goinfrer avec les monstres qu'il a derrière sur la grille de départ. Il va pas tenir longtemps avec Kimi Antonelli, Lando Norris, bon lui il est passé, Max Verstappen. Carlos Sainz, c'est pas un monstre pour le moment, mais Lewis Hamilton, il a tenu un bon moment. Et puis là, comme tu le disais, Nico, en ouverture, c'est vrai que c'est presque dommage qu'il ait perdu cette place dans le dernier tour, mais bon, ça c'est la course automobile.
Il était bien dégoûté.
Il était bien dégoûté, mais bon, il a fait un très beau Grand Prix, solide, pas d'erreur. Écoute, c'est encourageant, et puis ça nous laisse entrevoir effectivement un futur, pourquoi pas intéressant, avec Douane ou sans Douane.
Attends, parce que c'est encourageant pour Alpine, parce que Douane, super Q1, Q2 il passe pas, mais il est quand même le premier des éliminés.
Oui, absolument.
Pierre fait quand même le quatrième temps de la Q2. Avec tous ces pontes. Alors ok, on n'est peut-être pas au max parce que on y a la Q3 qui arrive, mais de le voir comme ça avec la marge de sécurité, de pas passer ric-rac déjà en Q3, c'est un super bon signe. Donc on est content de voir ce qu'il nous disait.
Il était dans les points un moment. Hein, il était aux portes des points. Longtemps.
Ce qu'il nous disait sur le ressenti de la voiture et que ça se confirme là. Écoute, c'est super, c'est encourageant. On est évidemment content.
Et dans la course.
Tiens, on l'écoute.
Pardon.
Il était vraiment dégoûté. Non mais après tu réagis, mais au micro de Canal. Pierre Gasly.
Vous pouvez nous raconter les derniers instants de cette course avec Verstappen ?
Moi, j'ai pas envie.
Ah, désolé.
Non, en vrai, je suis un peu dégoûté du dernier tour, mais bon, après, je pense qu'il faut relativiser. J'ai besoin de calmer un peu les émotions. C'est vrai que j'ai beaucoup donné pendant tous ces 15 derniers tours pour essayer de le garder derrière, le garder en dehors du DRS, les derniers tours dans le DRS. Si proche du but de perdre deux points, c'est jamais plaisant. Mais bon, je pense que quand on relativise un petit peu, c'est sûr qu'il y a énormément de positifs à tirer de cette course. L'équipe a fait un super travail. Très bon pit stop, très bonne stratégie. On était performants, tout le temps performants. Donc non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs à tirer.
C'est vrai qu'ils ont été réguliers, Louis Alpine, sur le week-end. Et c'est ça qui est important aussi dans cette perf.
Oui, ça a permis de confirmer ce qu'ils avaient vu lors des essais sur le même circuit, même si toutes les conditions météo étaient différentes. Ça a permis surtout, enfin, de confirmer en course ce qui était dit dans l'écurie ou de la part des pilotes. C'est-à-dire que il disait ouais, on en a, mais on le voyait pas le dimanche. Ah, donc ça commençait à être un peu agaçant. Et donc là, enfin. Et en plus, si on veut voir du positif, la safety car, elle est pas dingue pour Pierre parce qu'il est rentré 4-5 tours avant.
Lui, Antonelli aussi.
4 tours avant. Voilà. Ah, voilà. 4 tours avant. Et donc, du coup,
et Verstappen aussi. Hein.
C'est pas dingue plutôt. Parce que, ouais. Certes, du coup, lui, il rentre pas. Donc, il retrouve un peu tout de suite la place qu'il avait avant d'être rentré. Mais s'il était pas rentré, il aurait pu changer de pneu comme tout le monde et pas avoir ce petit déficit qui lui a peut-être coûté très cher dans les derniers tours. Et d'ailleurs, dans ce dernier tour, tu sais, tu parlais des bugs d'infographie qu'il y a eu avec Russell qui a dégringolé. Verstappen-Gasly, je crois que c'est dans le fameux virage 4 qu'il le double. Et dans l'infographie, ça arrive au dernier virage. Tu vois, ça, genre...
Il y avait un retard.
Il y a eu un retard. Absolument. Et donc, en fait, moi, je j'avais les yeux fixés sur l'infographie et je disais, ça tient. Et là, j'ai cru que c'était dans le dernier virage. Et là, je fais, quoi ? Mais c'est pas possible, mais on freine pas dans ce virage. Mais comment t'as pu le faire doubler là et tout, j'étais hyper énervé. Et après, j'ai vu que c'était virage 4 et du coup, ça m'a un peu calmé en mode, bon... Là, c'était vraiment la voiture, quoi. Qu'il y a un moment, les pneus n'ont pas permis de rester devant. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai cru que c'était le dernier virage, j'étais fou.
Ouais, puis trois.
Parce que le rythme en course, il est bon, hein. Le rythme en course, mais même de l'équipe.
Ouais.
Les
deux garages, ça, c'est une très bonne chose, c'est vrai. Ouais.
Donc ça, c'est quand même ultra positif. Un mot sur Ocon, qui, Jean-Luc, confirme que As au rendez-vous, As 5e au classement des constructeurs, surtout que les deux voitures sont dans les points, là aussi, au Lieberman qui a été une nouvelle fois très solide. Donc voilà, ça confirme là aussi le potentiel qu'on avait entrevu chez As.
Je vais te dire, pour moi, c'est l'exploit de la course, mais je pèse mes mots, parce que Esteban est parti 14e, on se rappelle donc qu'il avait pulvérisé sa voiture, etc., et que c'était pas facile pour lui, même si, bon, il a assumé complètement, l'équipe a travaillé, c'est une petite équipe, hein, c'est le plus petit budget, donc c'est jamais... C'est un, pour te mettre en confiance, c'est quand même bon, même s'il a assumé, comme je le disais en rigolant tout à l'heure, bon, tu montes sur le vibreur, t'as plus de roues par terre, bon, voilà, c'est comme ça que tu fais un temps aussi, bon, terminé, donc il part 14, donc il termine magnifiquement 8e, et puis avec de bons temps, et puis alors Burman, permettez-moi, dernier quand même, il part 20e, et là, ouais. Il rentre dans les points, nouvelle fois, parce que là, ouais, il a un talent fou, hein, ce jeune. Il n'a que 19 ans et performance d'équipe remarquable. Alors bon, ils n'étaient pas là en qualif. Et là, quand ils partent bien, As, c'est une équipe vraiment solide et ça fait vraiment plaisir. Nos deux Normands, comme tu le disais, Nico, écoute, ils sont tous les deux dans les points l'un derrière l'autre. Alors bon, ils ne vont peut-être pas toujours partir en vacances ensemble, mais ça fait plaisir quand même. En tout cas, peut-être que bientôt, ils vont se retrouver sur un podium ensemble. Va savoir, tu vois. Petit clin d'œil, évidemment, au Grand Prix du Brésil l'an dernier.
Ah, ce serait exceptionnel. Hein.
Ouais. Ouais. Non, mais bon, on peut rêver.
On peut rêver. Rêvons grand. Un mot de Ferrari, du coup.
Rêvons grand aussi.
Non, mais je sais pas. En fait, qu'est-ce qu'on en pense de cette course? Parce que les propos de Leclerc, c'est un peu les mêmes qu'après Suzuka. C'est qu'il dit qu'il peut pas faire mieux. Il dit limite que le tour de qualif, quand il termine 3e, c'est
trop
un peu
vite.
Un miracle.
Ouais. Ouais, il allait plus vite que la voiture.
Il allait plus vite que la voiture. Et que quand il regarde, quand ils ont fait toutes les analyses, en fait, secteur par secteur, ils auraient pas dû être là. Donc en fait, après, c'est Charles Leclerc. On sait que à chaud, il a toujours ses réaction dès qu'il n'est pas sur la première marche du podium, il est intraitable dans ses analyses. Mais malgré tout, tu as l'impression que là, en faisant 4 et 5, ils font le meilleur résultat possible. Il n'y a pas moyen d'aller chercher grand-chose de mieux en ce moment, Arnaud. Hein.
Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est de voir Lewis Hamilton déjà avoir du blues et du spleen. Tu sens, je retrouve le même.
Je te trouve un peu dur, je te trouve un peu dur, tu vois.
Ah, moi je le trouve déjà. Il y a des fois, je dis, mais il est déjà résigné. Je revois le Lewis martyrisé par Red Bull avec sa Mercedes 2022-2023 en disant, ouais, bah c'est comme ça. Et je me dis, tu viens juste d'arriver, t'es dans une nouvelle écurie. Tu te fais battre par ton coéquipier. Certes, tu as gagné cette course sprint. Ah, et j'ai du mal à voir la niaque là chez Lewis. Ça me... Je suis un petit peu circonspect. Alors, on va voir au prochain Grand Prix. Mais de se dire, bah, je ne peux pas faire mieux. Bravo à l'équipe. D'ailleurs, il y a un petit mot. Bravo pour les deux arrêts au stand à un moment sur la safety car. Mais de se dire, bah, Charles est meilleur. Je n'arrive pas à comprendre la voiture. C'est comme ça. Je suis un peu défou, je suis un peu troublé.
Et pour aller dans ton sens, c'est la décla aussi de chez le diffuseur de Fred Vasseur qui bah, il affirme en fait que finalement, si on regarde bien, derrière McLaren, c'est eux qui font le meilleur week-end, que c'est pas si mal. Que, tu vois, je trouve que...
On se contente de peu.
Ouais, on se contente, ou alors du coup, on sait qu'on est vraiment, vraiment au max, et du coup, bah, on enrobe un peu le truc parce qu'on sait que c'est vraiment pas fameux en fait. Et c'est un peu ça qui m'inquiète. Moi, je me dis, est-ce que on n'est pas comment dire, dans une dynamique descendante et qu'on va pas encore passer un palier dans le mauvais sens,
ou de se dire on met déjà pause sur 2025 parce que c'est ouais. 2026
je crois pas, sincèrement. Je crois que là, en plus, vous savez les proportions que ça prend, hein. On a vu Luca di Montezemolo qui était de retour depuis 10 ans sur un tracé qui a pas, alors là c'est un peu coup bas là de sa part, hein, puisqu'il a critiqué vertement carrément la Scuderia Ferrari. Moi je comprends pas ça quand on a été le patron à deux reprises en plus de la Scuderia. Non, il faut la jouer groupir, il faut la...
On tire pas sur l'ambulance en
fait. Non, exactement. Ouais. Puis en plus, attends, c'est pas au niveau qu'on attendait, tous, les premiers, parce qu'on s'est dit qu'ils allaient se battre pour le titre cette année, qu'ils allaient recoller à McLaren. C'est pas le cas. Là, on peut dire que c'est la troisième équipe du plateau, voilà, derrière McLaren et derrière Mercedes. Alors effectivement, là, tir groupé, en course, il sauve les meubles, parce que bah, même Lewis la retrouve, il l'a dit, en course, il a retrouvé un peu l'utilisation de la voiture, il l'avait pas du tout en qualif, il était un peu largué, il a dit bravo à Charles, moi je sais pas comment il fait, bah, il lui a collé 6 dixièmes quand même, hein, en qualif, c'est un gouffre. Donc là, je rappelle la nouveauté du fond plat, mais on a bien dit que c'était pas là-dessus que ça allait fonctionner bien, c'est-à-dire à Bahreïn, c'était normalement, donc ils ont anticipé la délivrance de ces pièces-là. Bon, on connaît la puissance de travail de Ferrari, là je peux vous dire que là ça doit être nuit et jour, hein. Alors il y en aura sûrement à Jeddah, donc dès la fin de semaine, et puis il y en aura à Miami, bah évidemment, rappelez-vous, c'était le tournant pour McLaren, donc je pense que Miami là, ouais, c'est le moment où il va y avoir vraiment des vraies évolutions, et on peut espérer, bah, pour tout le monde, que Ferrari va recoller au peloton et va pouvoir bah, redonner du peps dans l'œil de Charles et de Lewis, parce que je suis d'accord avec vous, les pilotes là, il y a le discours, ils veulent pas botter contre leur camp, mais c'est vrai qu'on les sent un peu résignés quoi, pour le moment. Ils font tout ce qu'ils peuvent, et tout le monde le dit, mais avec ce qu'ils ont.
Ça flingue un peu notre début de saison, même à nous, hein, les fans de ce sport, hein, parce qu'on en attendait tellement là, de cette potentielle lutte avec McLaren. Au moins, Ferrari capable de une Scuderia capable de taper pour aller sur le podium, quoi.
Elle est loin, elle est loin, la course sprint où il gagne.
Attends, rends-toi compte, ils ont là,
c'est la seule victoire de l'année.
Ils ont 57 points et McLaren en a 151.
Ouais, c'est quasiment à 100 points de McLaren.
On parle d'autre chose.
Avec des chiffres pareils.
Il y a les deux disqualifications qui font mal.
C'est vrai. Tu perds 18 points, je crois, de mémoire.
T'as pas le temps de glisser aussi.
Tu as beau avoir que 4 Grands Prix au compteur, la question qu'Arnaud soulevait tout à l'heure, elle est légitime. Est-ce que quand t'as 100 points de retard sur McLaren, est-ce que c'est pas le moment de bifurquer tout de suite, quoi.
Tu peux pas lâcher après quatre courses, pas quand t'as fait signer Lewis Hamilton, pas quand t'as ce projet là. C'est impossible. Ou alors l'image que tu renvoies, ça,
à l'inverse, tu peux avoir une réflexion différente sans toutefois lâcher. Tu vois, dire bon,
à l'inverse, moi je crois qu'il faut remettre des moyens pour cette année pour remonter la barre et pas dire que c'est foutu. Alors pour le titre constructeur, bah oui, je suis comme vous là. Bon, ça fait que 4 grands prix et
on a vu avec Red Bull ce qui peut se passer. Hein. Imaginez qu'à un moment, c'est pareil, c'est pas une écurie qui régresse, c'est les autres qui trouvent des trucs et qui progressent. Bah, si, par exemple, Ferrari, je dis n'importe quoi, et Mercedes, et pourquoi pas Red Bull, retrouvent des trucs dans les 3-4 Grands Prix qui viennent, et c'est-à-dire aux alentours du 8-10e de la saison, pour aborder au niveau de McLaren la deuxième partie, on va tous tenir un discours différent, pourquoi pas. Mais ça veut dire peut-être distraire effectivement des moyens, des forces de ce qui est prévu pour 2026 pour remettre sur 2025, tellement on est mal.
Et puis alors trouver des choses à 6 mois de la fin de la réglementation, c'est le plus dur. Hein.
Alors je ne sais pas dans quelle mesure...
C'est vrai. Il y a le moustache, hein, pardon. C'est ça que tu allais dire peut-être.
Non.
Les moustaches.
Ce que j'allais dire, on va commencer, les pièces vont être un peu usées, même si on arrive en fin de réglementation, que tout le monde sur la fiabilité maîtrise un peu tout, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes moteurs, de la casse moteur, parce que là pour l'instant, et je me faisais la réflexion avec Jean-Luc, là aussi bien en termes de fiabilité, c'est quand même exceptionnel, et les pilotes, c'est qu'on attendait toujours l'énorme incident en course, le type qui va dans les graviers, dans le mur, malgré les rookies, il n'y a personne.
C'est très propre.
On a des courses.
C'est pour ça qu'il faut des pilotes payants. Il nous faut toujours une brelle qui a payé 10 millions pour être là et qui se met dans le mur 4 fois par an. Voilà.
Vous êtes dur. Non, moi je croyais que tu allais parler des moustaches parce que les moustaches, là aussi, on ne sait pas pourquoi la FIA leur a laissé jusqu'à Barcelone, hein, c'est bien ça. Donc avant de mesurer vraiment.
Moustache gracias.
Alors, et vous avez.
Elle est aussi foirée qu'excellente.
Allez, on prend. Mais attends, on se demande pourquoi ils leur ont laissé autant de temps pour modifier les moustaches et donc. Clairement, c'est vous trichez, vous êtes plus qu'au-delà de la limite du règlement, mais bon, on dit rien jusqu'à Barcelone, puis à Barcelone, on va vous taper sur les doigts.
Mais alors en même temps, c'est très FIA, ça, je trouve. Ouais, c'est assez régulier d'avoir ces trucs
d'être flou, tu veux
dire. Ouais, exactement. C'est jamais clair. Norris, il fait son dépassement de ligne, il prend 5 secondes. Moi, dans mes souvenirs, on faisait soit un drive-through, enfin, c'était plus violent que ça. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est à la carte, à la tête du client, petit bonheur, la chance, enfin que il y a trop de différences dans ça, il y a trop de flou comme tu dis.
Et le scandale Albon, hein, un mot maintenant si tu veux Nico, juste
Albon, on va terminer le podcast là.
Albon qui devait monter en qualif et qui est viré alors qu'effectivement il y avait un tour où c'est Hülkenberg je crois qui lui était sorti de la piste. Attends, ils ont des caméras partout, ils ont des positionnements partout, ils sont incapables de donner. Alors la FIA, vous avez lu comme moi l'explication fumeuse, oui mais alors attendez, mais alors en fait on n'a pas eu le temps de... Non, c'est pas sérieux,
les
gars.
Les messages sur les Mercedes, reprise de la Q2, les autres se mettent dans la pit lane, sortent. Ah bah non, vous auriez pas dû sortir, il n'y avait pas l'heure.
Mais on a une place sur la grille. Moi, je suis désolé.
Il n'y a pas eu de sanctions sur ça.
Non, mais je suis désolé pour notre ami Bin Sulayem, mais là, il va falloir remettre de l'ordre dans la maison.
Avec le vent de l'espace de Lewis, qui est passé à côté de lui.
Parce que là, ils perdent quand même une place sur la grille, mine de rien, c'est du lourd. Il faut se battre comme un chien pour monter et ça permet à Charles de passer devant et à Russell. Là aussi, on ne fait pas les courses, mais vu le départ qu'avait pris Russell depuis derrière, on ne sait jamais. Bon, enfin bref. Il y a du mou dans la corde à nous, comme on dit.
Oui, totalement. Et vous avez vu, c'est vrai, ce vent de l'espace là, que Hamilton a mis à Ben Sulayem à la fin de la course, là, quand il l'accueille bras ouverts et qu'il passe devant sans
regarder. Bah oui. Bonne ambiance. C'est le cirque à l'arrivée, c'est grotesque.
Très bonne ambiance. Les gars, merci beaucoup. En fait, au final, il était pas mal ce Grand Prix de Bahreïn.
Tu vois.
Il faut toujours
être optimiste.
Bon, Nico, il faut le débrief est du niveau du Grand Prix. Donc, si le Grand Prix est bien, le débrief sera bien.
Mais non, mais c'est-à-dire que moi, des fois, j'attaque ce podcast en me disant, quatrième course de la saison, il s'est pas passé grand-chose. Je vous écoute et après, je suis reboosté pour la semaine. Et c'est quand même du bien. Plus beau.
Nous aussi, je vais te dire. C'est vrai que c'est un plaisir, de toute façon, de discuter. De sujets qui nous passionnent et puis on est là pour trouver des raisons aussi de se passionner, mais on n'a pas à chercher beaucoup quand même parce que la passion chez nous elle est jamais très loin.
Il y en a plein des angles à aborder et il y en aura encore jeudi les gars, parce que vous savez que la Formule 1 termine son triple header là en Arabie Saoudite, donc dès jeudi restez connectés, activez les notifs, les petites notes, il y aura le warm-up du Grand Prix d'Arabie Saoudite et on va se régaler encore avec un week-end plein de F1 sur RMC avec Jean-Luc en commentaire.
Le retour du
Vegeta.
Bam.
Mais quel talent, mais comment fait-il?
Ça aurait été un sans faute. Là, t'étais un peu en sur-régime aujourd'hui. Là. Va falloir que tu te reposes après celui-là, mais... ce podcast, parce que je sais pas si tu feras mieux.
Mais ils sont plusieurs. Ouais,
j'ai un peu de training là, tu sens là.
J'ai l'impression que c'est Verstappen à Suzuka là. Tu vois, t'as fait tout ce que tu pouvais. J'ai peur de la chute, moi, Arnaud. Bon, en tout cas, on se dit à jeudi. Bye bye et vive la Formule 1 sur RMC.
Salut.
Ciao.
Le paddock RMC.